selon Rob Grillet, nouveauté depuis au moins le 19e siècle et synonyme de réalisme. On le voit très bien dans un article qui a intitulé justement « Du réalisme à la réalité ». C'est le premier article que je vous propose sur les Templiers. Il nous dit « C'était le mot d'ordre des romantiques contre les classiques, puis celui des naturalistes contre les romantiques, et les surréalistes eux-mêmes affirmaient à leur tour ne s'occuper que du monde réel ». Il affirme peu après que ses propres romans ne font pas exception à la règle. Reste à préciser ce qu'il entend par réalisme et en quoi lui-même va faire évoluer à son tour ce concept. Donc en nous penchant sur les anneaux, mâchoires, mandibules, antennes et autres charmants et croustillants appendices de la jalousie, nous allons donc tenter de récapituler quelques lectures réalistes qui ont été proposées de son œuvre, puis nous nous demanderons si ces lectures sont exclusives, antagoniques, contradictoires, ou si au contraire, de leur conciliation, ne naîtrait pas un réalisme authentiquement moderne. Confrontons donc Coup de patte de Barthes, Morisset et Tricardou, et Mille pattes de Rob Grillet. On se rappelle que dès les premiers romans de Rob Grillet, Barthes parle de littérature objective, comme il l'explicite dans son article en mettant une définition du Littré, une littérature qui serait destinée à être tournée du côté de l'objet. Alors effectivement, si on regarde l'architectualité de la jalousie, elle semble lui donner raison. Rob Grillet a une propension évidente pour le descriptif. Non seulement la Scutigère nous est décrite 4 fois, en long, en large, j'aurais envie d'ajouter en morceaux, mais Rob Grillet aussi la fige au milieu du mur, la réifie, comme il réifie aussi, par exemple, le personnage d'A. Surtout, il ramène ses descriptions aux origines de l'architecte, à savoir les écrits techniques ou scientifiques. Cette origine est surmarquée au sein du texte, simplement par la dénomination Scutigère, plutôt que mille pattes, et puis par le recours au lexique technique. On a les mots, enfin les lexiques mandibule, anneau, appendice buccaux. En toute cohérence aussi, plusieurs des descriptions de Rob Grillet reprennent les 4 critères descriptifs qui étaient utilisés par les taxinomistes du XVIIIe siècle, à savoir la quantité des éléments, leur forme, leur distribution dans l'espace et enfin leur grandeur relative. Plus d'un passage qu'on peut analyser tout à fait avec ces 4 critères qui sont des critères de mémoire énoncés par Buffon. Une analyse plus poussée des caractérisations conduit à des conclusions similaires. Inutile de vous dire que les quantifiants abondent dans le texte, mais même si on regarde les adjectifs, on a avant tout des adjectifs classifiants. Ce sont eux qui dominent de loin. Et il est intéressant de remarquer que ces adjectifs, les adjectifs classifiants les plus utilisés, donc dans le corpus que j'ai choisi, qui tourne donc autour de la Scutigère et de la tâche, mais il y en a 4 qui reviennent très très souvent, c'est immobile, droite, visible et fine. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que ces adjectifs classifiants, en fait, ils sont donnés, appropriés autant à la Scutigère qu'au personnage qui l'entoure. Donc je crois que j'y vois une remise en cause finalement de la hiérarchisation humaniste homme-animal, un refus de privilégier le sujet et l'objet, autrement dit, une recherche d'objectivité. Tout aussi significatif, énormément d'adjectifs utilisés par Rob Grillet sont attributs. Et l'auxiliaire qui domine, c'est sans trop de surprise l'auxiliaire être, c'est lui de loin le plus représenté. Or, l'auxiliaire être est évidemment particulièrement objectivant. On pourrait dire qu'il y a une subduction du trait principal de son sémantisme en emploi absolu, qui est celui de poser l'existence. Autre outil de la caractérisation, dont on vient de le voir, Rob Grillet a beaucoup parlé, les comparaisons métaphores. Là aussi, à premier abord, elles semblent antinomiques de l'objectivité, et pourtant elles abondent. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que Rob Grillet utilise très très souvent des métaphores éculées, usées, lexicalisées, qui sont même à la limite du cliché très très souvent. Et si on reprend la classification de Fontanier, on s'aperçoit que les métaphores dominantes sont celles que Fontanier appelle les métaphores physiques, c'est-à-dire celles où deux objets physiques, animés ou inanimés, sont comparés entre eux. C'est-à-dire que le comparant, loin d'emporter le lecteur dans un monde onirique, exotique ou que sais-je, le ramène directement à son quotidien. Et on a même certaines comparaisons métaphores qu'on pourrait qualifier de diégétiques. C'est-à-dire que cette fois, le comparant, il est emprunté au contexte immédiat. Un exemple, mais il y en a pas mal, encadrant une assiette aussi blanche que la nappe, qui évidemment est sous l'assiette. On pourrait faire une remarque allant dans le même sens. Si on regarde la tension entre le thème et le fort, contrairement au surréaliste, elle est très très réduite. Et même des fois tellement restreinte que le comparé devient comparant ou que le comparant devient le comparé. Je pense à l'exemple du crabe. Hein, l'animal s'en sert pour produire une sorte de grésillement, analogue à celui qu'émet, dans certains cas, la scutigère. Hein, donc, ce qui était comparant est devenu comparant. Hein, donc vraiment un univers où, qui ne fait pas disparaître hein, dans un monde merveilleux. Pourtant, hein, la belle objectivité hein, dont Barthes s'était fait le chantre eh bien, ne tarde pas à ôter, à chanceler, à vaciller. Hein, et le lexique technique et scientifique, repéré à l'instant, eh bien, c'est quand même trop remarquable de voir que ça avoisine avec des lexies aussi imprécises et familières que la bête ou la bestiole. Dans certains passages, nous avons même droit à des indéfinis ou à des démonstratifs du style quelque chose, tout cela. Même constat au niveau référentiel. Dès la première évocation du mille pattes, hein, le cadre temporel est surmarqué. Hein, on a quatre syntagmes qui situent l'action dans le temps. La semaine dernière, au début du mois, le mois précédent, plus tard. Puis quand on essaye de c'est un petit peu formaliser, de se dire mais alors ça correspond à quelle époque, eh bien, on est incapable de dater la scène. La même chose pour l'espace, hein, vous avez dû le remarquer à la lecture. Hein, les descriptions sont précises, on a énormément d'indicateurs spatiaux. Quand je regarde les passages sur la scutigère, on a droit à des points cardinaux, on a droit à des parenthèses explicatives. Puis après, quand on essaie de se dire, tiens, de quel mur il s'agit, on souffre, on a un mal fou à reconstituer les lieux. Je crois que le lecteur se retrouve en fait, ni plus ni moins, dans la situation d'un des personnages du voyeur, qui s'appelle Mathias. Et à un moment, Mathias demande de son chemin à deux marins. Et là, ce qui est dit des indications spatiales, je me demande si on n'aura pas là peut-être la meilleure poétique de la spatialité de Rob Grillet. C'est mon deuxième extrait. Ils entrèrent dans de très longues explications afin de situer avec exactitude leurs demeures respectives. Ils donnaient vraisemblablement une quantité de détails inutiles ou superfétatoires, mais avec tant de précision et tant d'insistance que Mathias s'y perdait. Plusieurs fois, il eut même l'impression que l'un des deux hommes employait à peu près au hasard et comme indifféremment les mots « à gauche » et « à droite ». Entre les versions successives, se rapportant la même partie du trajet, il y avait bien entendu des variations qui paraissaient considérables. On pourrait reprendre mot pour mot hein, description hein, par rapport au passage sur les scutigères. Signe d'un doute généralisé, hein, remettant donc peu à peu en cause l'objectivité barthienne, signe d'un air du soupçon, comme dirait Sarraute, eh bien, les modalisateurs épistémiques, les hyperbates, les épanorthoses hein, abondent dans le texte. Et de même, on a très souvent l'adversatif « mais ». Et sur mon corpus, c'était assez intéressant parce qu'au début, « mais » est en milieu de phrase. Puis, au fur et à mesure qu'on avance, « mais » passe en début de phrase. Et puis, arrive même un moment où « mais » passe en début de paragraphe. Et quand on regarde certaines de ces occurrences, on s'aperçoit même qu'il est utilisé pour relier des lexiques qui ne sont finalement même pas opposés. Hein, je pense à un exemple, le rayonnement des plis, de plus en plus aplati, mais aussi de plus en plus étendu. On aurait très bien pu avoir de plus en plus aplati et de plus en plus étendu. L'idée d'être aplati, ça ne s'oppose pas à l'idée d'être étendu. Vous voyez ce qui est en train de se passer ? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'univers devient de plus en plus antagonique. Hein, évidemment, de antagonique à contradictoire, il y a un pas hein, que je vais maintenant franchir. Hein, et si on regarde les contradictions, hein, qui évidemment s'opposent a priori à l'objectivité, eh bien, elles sont multiples. Au tout début, on nous dit par exemple que plusieurs fragments du mille pattes sont parfaitement conservés. Et puis voilà que 100 pages plus tard, il n'y a plus un seul fragment du mille pattes. Hein, même la plus grande patte qui est à peu près bien, ben non, elle n'est pas en entier quand on regarde de plus près. Il nous dit aussi que la tache n'a pas été effacée. Puis voilà que soudain, elle est effacée devant nous. On se dit, bon, c'est qu'elle a été effacée. Et puis voilà que page 211, la tache est toujours là sur le mur. On pourrait continuer le petit jeu. Comment aussi est-ce qu'un actant qui est situé à 2 mètres de la scène arrive à entendre, j'aurais envie de dire, le cri pathétique d'un mille-pattes rendant l'âme hein, ça devient difficile aussi du point de vue objectivité. Et puisque tout le monde a remarqué, évidemment, le grossissement de la scutigère. Hein, de page en page, hein, on a l'impression qu'elle prend un mètre de plus. Alors, si je récapitule, par l'architecte, par la caractérisation choisie, hein, la jalousie semble tendre vers l'objectivité. Mais cette objectivité, que ce soit au niveau temporel, spatial, logique, vacille à un tel point que tout ou presque semble devenir contradictoire. Alors évidemment, on se pose une question, comment concilier une écriture si objective à un référent si problématique ? Bien, je crois que la réponse, hein, c'est Rob Grillet qui nous la donne, évidemment, hein, c'est en la reliant au regard qui génère hein, cette scutigère. Et donc, comme l'écrit Rob Grillet lui-même, hein, c'est ma troisième citation, le petit C, même si l'on y trouve beaucoup d'objets décrits avec minutie, il y a toujours et d'abord le regard qui les voit, la pensée qui les revoit, la passion qui les déforme. Donc voilà qui nous conduit à un deuxième Rob Grillet, hein, un Rob Grillet qui dans le monde du 13 mai 1961, hein, culot, j'aurais envie de dire, d'écrire exactement le contraire de ce qu'il disait 2 ans auparavant, hein, à savoir la subjectivité, la caractéristique essentielle de ce qu'on a appelé le nouveau roman. Alors si de nouveau on regarde les adjectifs et les caractérisations, bien oui, finalement on a une confirmation de cette subjectivité. Hein, certes, je l'ai dit, et je ne retourne pas là-dessus, les adjectifs sont essentiellement classifiants. Mais si on regarde, par exemple, les adjectifs de couleur, qui pourraient être considérés comme les plus classifiants des classifiants, bien on s'aperçoit que la simple récurrence, hein, d'un même adjectif fait peu à peu glisser du dénotatif au connotatif, fait glisser de l'inhérent à l'afférent, fait glisser de l'objectif au subjectif. Si je vous dis une première fois l'épaisse masse noire, ben vous retenez la couleur noire. Mais si quelques pages plus tard, je vous dis une tache sombre, puis un peu plus loin une forme sombre, puis une petite tache sombre, puis le trait sombre, eh bien, à chaque occurrence, le référent devient un peu plus angoissant, un peu plus subjectif. Et plusieurs autres adjectifs montrent aussi tout à fait, je trouve, les limites de la classification, classifiant, non classifiant. Donc, finalement, je trouve j'ai de plus en plus de doutes, moi, personnellement, sur cette classification. Je vous prends un autre exemple, la taille. A priori, ça fait partie des adjectifs classifiants. Mais c'est finalement très peu objectif, c'est complètement relatif. En prenant, si je me permets, un petit exemple, moi personnellement, je trouve que tous les gens qui font plus d'1m70, je les trouve disproportionnés et grands. Je suppose qu'en face, monsieur ne doit pas penser tout à fait de la même façon. Bien là, c'est ce qui se passe avec les pattes de la scutigère. Quand même, objectivement, au maximum, elles font quoi ? Quelques millimètres. Or là, elles nous sont décrites comme gigantesques. Est-ce que ce n'est pas révélateur d'une subjectivité des plus troublées ? Alors, ce qui est vrai pour les adjectifs est complètement vrai pour l'ensemble du lexique. Hein, une simple description comme celle de la chemise de Franck, j'ai fait attention de ne pas prendre une chemise kaki, pourrait sembler objective par sa précision. On nous dit coton sergé, piqûre horizontale, mais en fait, elle déborde de subjectivité. Hein, le péjoratif y est omniprésent. Hein, je reprends 2-3 extraits. Une étoffe raide, à passer légèrement, en matière plastique jaunâtre. L'abondance des métaphores conduit aussi aux mêmes conclusions. On sait bien, déjà Fromillac et Sancieux-Château l'ont bien dit, hein, que cette figure, puisqu'il y a intrusion d'une isotopie étrangère, puisqu'il y a intrusion d'une allotopie, bien déjà, elle met en jeu forcément la subjectivité de l'énonciateur. Or, dans mon corpus, c'était très net, il y a plus de métaphores que de comparaisons. Hein, donc, sans doute, plus de subjectivité encore que si ça avait été des comparaisons qui peuvent avoir une dimension didactique. Alors, certes, je l'ai dit tout à l'heure, hein, beaucoup de métaphores sont mortes, hein, mais j'ai envie de dire que Robrier n'arrête pas de les réactualiser ou de les rendre vives, hein, comme dirait Ricoeur. Bon, un exemple, à un moment, on nous parle des dents d'écailles du peigne. Mais juste avant de nous parler, donc a priori, dents d'écailles, on ne pense même plus à l'idée de dents, puisque c'est complètement figé, hein, c'est devenu une sorte de stéréotype. Mais juste avant, on nous parle des grésillements des mâchoires de la scutigère. Ben évidemment, le fait que le mot « dent » suive, aussitôt, ben les dents du peigne deviennent menaçantes et dévorantes. Hein, et ce qui n'était que pure objectivité redevient subjectivité. Puis plus que cela, si on analyse encore ces métaphores, en opposition totale avec ce qu'affirme Robrier, eh bien, il ne cesse d'anthropomorphiser le monde. Je reprends encore dans mon corpus, hein, qui est quand même un corpus de quoi 10 pages, hein, peut-être 15 pages, si j'additionne que ce qui parle de la scutigère. Regardez, la douceur de l'éclairage, la cruche indigène ventrue. Le bruit est celui du peigne dans la longue chevelure. Anthropomorphisation, anthropomorphisation, anthropomorphisation. Hein, et le bon lecteur de Robrier, je crois, n'est donc pas du tout surpris quand, en 1984, hein, au début du Miroir qui revient, il lit 2 fois suivre en moins de 10 pages « Je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi ». Alors, je crois cependant qu'il ne faudrait pas réduire la subjectivité du moi seulement à y voir une sorte d'assombrissement du monde ou une sorte d'anthropomorphisation du monde. Plus que ça, je crois qu'elle amène à recréer le monde, à inventer le monde de toutes pièces. Et donc, peu à peu, la scutigère en devient ainsi un véritable double de A. Non seulement toutes deux sont d'abord du genre féminin, mais toutes deux sont immobiles, toutes deux sont associées à une surface plane et blanche, la cloison pour l'une, la nappe pour l'autre, toutes deux sont caractérisées par le géométrique, tout droite sur son siège, démarche rectiligne, par le linéaire. Et surtout, les actes de l'une pourraient être complètement attribuables à l'autre. Hein, là, je vous donne 2-3 citations. Hein, ceux qui ne connaissent pas bien le roman, je vous défie de me dire si je parle de la scutigère ou si je parle de A. Hein, tremble imperceptiblement, laquelle des deux ? Ou ne se déplace pas pour le moment, laquelle des deux ? Bouche ouverte, on peut même dire laquelle des deux. Hein. Et si on fait encore un petit pas de plus, si je reprends les caractéristiques de A et de la scutigère, bouche ouverte, tremblement retenu, regard fixe, eh bien, ça rappelle énormément de scènes de l'année dernière à Marion Bad ou de l'Immortel. Hein, à la différence près que dans les scènes qui suivent, hein, dans l'œuvre un petit peu plus tardive, eh bien, ces scènes sont explicitement sexuelles. J'ai mis un exemple, mais j'en ai bientôt une dizaine. Hein. C'est mon exemple D sur l'exemplier. Hein, votre brouche s'entrouve un peu plus. Vos yeux s'agrandissent encore. Votre main se tend en avant dans un geste inachevé d'attente, d'incertitude, ou peut-être d'appel ou de défense. Vos doigts tremblent un peu, vous avez peur. Le « vous » pourrait le remplacer par « a ». Hein, et ce n'est pas du tout le même roman. Et il y a une petite différence, hein, c'est que juste en face, il y a un corps nu. Alors, cela nous amène, je crois, à voir dans la scutigère plus qu'un double de « a hein, », mais une matérialisation, une hyperbolisation de la sexualité. Et toutes les scènes d'écrasement de la jalousie hein, sont terriblement sexualisées. Alors je vais être très très scabreux hein, pendant 5 minutes, hein, mais vous allez voir qu'on peut très bien lire tout d'une façon très très scabreuse. Alors je commencerai par dire que le phallique est d'abord très présent, alors tout le monde l'a noté déjà par les couverts, hein, la main au doigt effilé s'est crispée sur la manche du couteau, sur le manche du couteau, je ne vais pas trop faire de dessin, mais je ne vais pas continuer à en faire en parlant aussi de la scutigère. Finalement, quand on regarde comment elle est décrite, au début elle est qualifiée de « moyenne ». Et on va jusqu'à dire, hein, ça va plus loin que ça, longue à peu près comme le doigt. Bon, ensuite, regardez le chemin qu'elle prend, une orientation qui est diagonale. Et on nous dit se dirigeant vers l'angle du plafond. Et puis finalement, on va un peu plus loin, et puis on nous dit qu'elle a un grand développement, hein, en caractérisant la scutigère. Et puis peu après, mais on a des groupes, c'est dans l'ordre hein, chronologique, donc c'est d'autant plus intéressant, hein, on a le groupe nominal, mouvement de bascule. Et le groupe verbal accélère leur balancement alterné. Je continue, je suis désolé pour les âmes sensibles. Je passe à la page 128. Et là, si j'enlève juste le sujet, mais si j'enlève que le sujet, voilà ce que je lis. Se couche l'un après l'autre et se relève dans un mouvement alterné, mais continu. Il y a quand même pas beaucoup d'ambiguïté. Hein. Les descriptions de Franck et de sa chemise, je crois, peuvent être lues exactement de la même manière. Hein, je crois qu'on voit bien que Franck est déjà, dès le début, la vérité personnifiée. Hein, c'est l'homme qui se lève pour défendre la pauvre petite femme faible devant l'insecte. Hein, et d'ailleurs, on nous dit, hein, la main de Franck, prune et robuste. Mais si on regarde de plus près les verbes qui sont utilisés, hein, page 61, on nous dit que Franck relève. Page 97, on a encore le verbe relève. Page 63, il se lève. Page 97, se met debout. Et page 112, encore plus explicite, se dresse. Et sa chemise, hein, sa fameuse chemise. Je rappelle qu'elle est raide. Mais quand on regarde aussi la façon dont c'est dessiné, eh bien, elle nous conduit hein, vers les parties intimes de Franck. Voici ce qu'est mis. Elle a une forme d'accolade dont la pointe se dirige vers le bas. Et puis un peu après, on nous dit « à l'extrémité de cette pointe est cousu le bouton destiné à clore la poche en temps normal ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'est pas en temps normal. Et donc, ça veut dire que si on n'est pas en temps normal, eh bien, le bouton ne clôt plus rien. Alors, un rappel simplement de la première scène d'écrasement, qui serait celle la moins explicitement sexuelle, eh bien, permet, je trouve, de préciser la sexualité en question. Alors là, je vais faire appel à votre imagination, je vais vous demander de fermer les yeux, d'imaginer un peu. Et vous allez voir, je ne reprends que ce qu'il y a dans le passage. Vous imaginez la nuit, une nuit tombée, hein, c'est le mot qui est mis. Ensuite, une lumière tamisée. Du silence, un narrateur-spectateur caché, ou ailleurs, une femme rivée à une chaise, un tremblement imperceptible, un deuxième homme, une bouche mi-close, une respiration de plus en plus haletante, un violent coup de serviette, du sang. Vous voyez ce qui est en train de se passer hein? On voit bien que non seulement on a une sexualisation, non seulement on a un voyeurisme, mais on est en train de tendre vers le sadomasochisme. Hein, et quand on connaît l'œuvre ultérieure de Rob Grier, ben on n'a aucune surprise hein, finalement. Hein. Et je dirais d'autant plus que les éléments évoqués mais ramènent aussi au masochisme. Je rappelle qu'on a la présence d'un couteau, qu'on a la présence de mouchoirs, hein, intéressant hein, parce que c'est la même chose qu'on trouve dans le voyeur. Hein. Et puis aussi on a la présence d'anneaux, hein, les anneaux de la scutigère, mais là encore on a d'autres romans ultérieurs hein, où on retrouve les anneaux, hein, même si c'est sans doute un petit peu plus osé comme interprétation. J'aurais envie de dire que le narrateur ne se contente pas d'hyperboliser la sexualité. Pas seulement. Je me demande aussi si par rapport à Franck, on n'aurait pas un regard terriblement destructeur et qu'on aurait aussi une sorte de vengeance sexuelle sur Franck. Quand il évoque Franck, d'abord, Robrié parsème son texte de termes très péjoratifs. Et d'ailleurs, ces termes péjoratifs, moi, j'y verrais bien des hypallages. On a, par exemple, page 113, « orné d'un anneau d'or large et plat, d'un modèle analogue ». Donc, anneau d'or, large, plat, analogue. Page 114, « la couleur kaki a passé légèrement par la suite de nombreux lavages ». Est-ce qu'on n'a pas là une espèce de Franck clinquant, gros, fade, conformiste, vieux jeu, usé? Et si on regarde la fin des scènes d'écrasement, bien, si on estimait que tout à l'heure Franck était la vérité personnifiée, est-ce qu'elles peuvent pas être aussi relues comme une espèce de revanche? Parce que qu'est-ce qu'on apprend? La bête incure son corps, la bestiole choix. Elle devient, j'aurais envie de dire, minable, petit arc qui store, s'estompant ennemi. Et puis dans un geste rageur, finalement, l'ennemi finit même par être écrasé. Et je trouve que cet acte prend toute sa force si on se rappelle qu'à la page 21, on avait le passage suivant. Plus à droite se dessine sur la peinture grise du mur l'ombre agrandie et floue d'une tête d'homme, celle de Franck. Donc est-ce qu'à travers la destruction de la scutigère, d'un autre côté, c'est pas aussi la destruction, il n'y a pas que ça, il ne faudrait pas limiter à ça, bien sûr, mais est-ce qu'on n'a pas la destruction aussi du rival? Alors ça veut dire qu'après cette catharsis, après le gommage, le fantasme décroît et devient alors une sorte de confirmation que finalement tout ça c'était peut-être inventé, tout ça c'était du fantasme. Ça deviendrait une sorte de confirmation du refrain, du lancinant refrain qui parcourt l'immortel. Dans l'immortel, page 50, tout ça, ce sont vos imaginations, vous voyez. Page 64, tout ça est faux, naturellement. Page 97, vous voyez bien que tout est faux. Puis surtout, plus que cela, Robrié en arrive à une conclusion assez redoutable, c'est ma citation E. Toute scène est indescriptible. La conscience est structurée comme notre langage, et pour cause. Mais ni le monde, ni l'inconscient. Avec des mots et des phrases, je ne peux présenter ni ce que j'ai devant les yeux, ni ce qui se cache dans ma tête ou dans mon sexe. La littérature est ainsi, la poursuite d'une représentation impossible. Le sachant, que puis-je faire? Et je crois que Ricardou va tenter une réponse qui va nous mener à une troisième lecture. Donc après la scutigère objective, après la scutigère subjective, eh bien je vous propose de tenter d'observer une scutigère que j'ai qualifiée d'autonymique. Mais pour bien comprendre, je crois qu'il faut passer par la peinture. Et que les peintres ont montré la voie, et que cette voie dans la jalousie, eh bien finalement on peut se demander si Robrié ne la retracerait pas étape après étape. Il semble au début nous faire la description de la scutigère d'une façon très très picturale, comme s'il voulait bien nous montrer que la scutigère c'est une sorte de tableau. On a des adjectifs de couleur, on a une répétition de la lexi-peinture, plus qu'il le faudrait, on a des polyptotes, des figures dérivatives qui reviennent constamment du verbe dessiner, on a l'isotopie des arts plastiques, il y a le mot tâche, il y a le mot encadré, etc. Il y a des références à la lumière, et finalement il y a l'attitude de A qui pourrait très bien ressembler à quelqu'un en train de contempler un tableau. D'autant plus qu'on se rappelle que dans le labyrinthe, par exemple, on a un personnage qui contemple un tableau, que dans l'année dernière, Marion Bad, on a des personnages qui contemplent des tableaux, etc. etc. Alors, cependant, si la scutigère est d'abord peinte d'une manière complètement naturaliste, l'intervention de Franck rend les contours de l'animal moins nets, page 130. Les anneaux et détails précis se métamorphosent, en restent flous, page 56. Je me demande si insidieusement, Robrié n'est pas en train de faire passer la scutigère, j'ai envie de dire, de Courbet à Monet. Et même peut-être à Signac et à Seurat, avec l'insistance sur la tâche. Il y a même un moment où il faut se rapprocher pour prendre conscience que c'est une tâche. Mais de même qu'une planche anatomique n'est pas la réalité, eh bien la représentation de l'impression d'un moment donné n'est pas la réalité. Elle est aussi une reconstitution mentale, qui est bien loin de restituer avec fidélité notre perception lacunaire et fragmentaire du réel, du là. Donc une conclusion s'impose, et cette conclusion, bien, c'est Claude Simon qui la propose. C'est ma citation F, à peu près dans les mêmes années. Je pense que la seule peinture vraiment réaliste fut le cubisme de la période synthétique. Nous ne percevons le monde autour de nous que par d'infimes fragments, que notre raison et nos habitudes ordonnent, agglomère, reconstitue en une sorte de ciment préfabriqué, nous permettant ainsi de conjurer l'effroi que nous causeraient ces manques, ces béances, si nous savions les reconnaître. Or, c'est, je dirais, mot pour mot, le programme que réalise Robrié lorsqu'il écrit « L'image du mille-pattes écrasé se dessine alors, non pas intégrale, mais composée de fragments. » Ou lorsqu'il segmente, géométrise la scutigère en écrivant « Morceaux de pattes et formes partielles. » Mais là encore, ça ne résout pas notre problème. Parce que est-ce que le réel, est-ce que la perception du réel se réduit vraiment à cela? Est-ce qu'on n'est pas encore confronté au même problème que tout à l'heure? À savoir que le pictural n'ayant pas la même structure que le réel, il ne peut pas représenter le réel. Alors, À moins que, j'aurais envie de dire, à moins que, il y a peut-être une solution. La solution, ça serait de représenter le seul élément du réel ayant la même structure que le réel, à savoir la peinture. Et c'est ce qui va conduire, on le sait bien, Kandinsky, Mondrian et les peintres abstraits, hein, et c'est ce que semble à la peinture dite abstraite, et c'est ce que semble faire Aubryer quand la scutigère, d'abord réaliste, puis impressionniste, puis cubiste, devient une forme sombre, un petit arc qui store en point d'interrogation, s'estompant à demi d'un côté, entouré ça et là de signes plus ténus. Et on comprend pourquoi Aubryer donne tant d'importance aux couleurs, aux formes, aux dimensions. Tous ces éléments ramènent aux caractéristiques premières de la peinture. Mais même là, il y a encore un écart entre la réalité appelée peinture et la peinture représentée. Hein, l'écart, et cet écart reste encore immense. Donc pour arriver finalement à la seule réalité représentable, il n'y a donc plus finalement qu'une solution, hein, qu'une solution possible, celle de Rauschenberg, qui est évoquée justement dans Aubryer, dans Le miroir qui revient. Hein, c'est la citation G. C'est lui, je crois, qui le premier m'a entretenu de Robert Rauschenberg, surtout remarqué à ses débuts pour avoir en guise de geste pictural effacé avec une gomme un très beau dessin au crayon de son aîné de Kooning. Et donc, est-ce que la seule manière de représenter réalistiquement le réel ne consisterait pas à imiter Rauschenberg, à imiter Malevitch, à éliminer, à gommer tout ce qui n'est pas peinture, à savoir le sujet, la couleur, la forme, pour arriver à l'essence même de la peinture, à savoir une peinture sans couleur, une peinture sans forme, hein, ou on pourrait peut-être prendre à dire, hein, comme Aubryer, une peinture immaculée n'offrant pas la moindre prise au regard, à savoir la toile blanche de Malevitch. Alors, si je récapitule tout ça, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que Aubryer, ayant compris qu'on ne peut pas peindre objectivement le monde, qu'on ne peut pas se satisfaire non plus du subjectif, puisqu'il génère des représentations qui n'ont pas la même structure que le langage. On arrive donc, à la suite des pannes du XXe siècle, à la conclusion que la seule solution acceptable consiste à représenter un élément du réel ayant la même structure que l'écriture, à savoir l'écriture elle-même. Alors évidemment, le simple procédé de répétition, hein, qui est omniprésent, vous le savez bien, dans la jalousie, amène déjà en soi à focaliser l'attention sur l'écriture. L'omniprésence de l'isotopie de la calligraphie, quand on parle de la scutigère, irait évidemment dans le même sens. Je cite quelques mots. Article, quelques pattes de grande taille, le tracé grêle, entouré ça et là de signes plus ténus, le premier anneau, la moitié du second, un trajet rectiligne. C'est complètement polysémique, on pourrait très bien utiliser ça pour des termes, pour désigner une écriture. Et assez symptomatiquement, d'ailleurs, je suis tombé par hasard là-dessus, dans les mots de Sartre, donc ultérieurement, bien sûr, il y a un moment, il parle de l'écriture, il compare son écriture à 1000 pattes. On retrouve le même jeu, la même image. Alors, poussant jusqu'au bout la logique de ce raisonnement, eh bien, le texte en arrive de plus en plus souvent à parler de lui-même. Ainsi, l'épisode de l'écrasement, vous avez sûrement fait attention à ça, c'est pas appelé l'écrasement, c'est pas appelé l'événement de l'écrasement, il est appelé plusieurs fois la scène de l'écrasement. Aubryer aussi a très souvent recours au préfixe de réitération re. On dit, j'ai un exemple, et il y en a une dizaine. Franck, sans dire un mot, se relève. Quand ce verbe apparaît, c'est effectivement la quatrième fois que le pauvre Franck, il est obligé de quitter la table pour aller taper sur la malheureuse scutigère. Vous voyez bien, il se relève. Ça serait plus logique d'avoir se lève, en fait. Pourquoi utiliser le re ? Vous voyez, il est en train de parler du texte lui-même. Puis on pourrait faire le même jeu avec les encore et les à nouveau de la jalousie. Là aussi, il y en a beaucoup. Je prends un seul exemple, mais je vous assure, regardez. Je prends page 128. La bestiole choit sur le carrelage, se tordant encore à demi. Alors certes, on peut dire, se tordant toujours à demi, la pauvre vient de recevoir un coup, elle n'est pas encore complètement morte, bon, elle tient 2-3 secondes. Mais on pourrait aussi dire, je reprends la phrase, la bestiole choix sur le carrelage, se tordant pour la quatrième fois à demi, page 52, page X, page Y, page Z. Donc ça veut dire que par ce à nouveau, eh bien, on passe insidieusement du monde de la fiction au monde de l'écriture. Scutigère objective, scutigère subjective, scutigère autonymique. Dans ses écrits théoriques, en fait, Aubryer semble constamment passer d'une interprétation à l'autre. Et en toute objectivité, il ne semble jamais convaincu par l'une ou par l'autre. Il ne cesse de les révoquer ou ne cesse de prendre une certaine distance. Oh, bah oui, Ricardo dit ça. Barthes a voulu me récupérer pour son écriture, etc. Et quand il confronte même lecture objective et lecture subjective, bien, sous sa plume, à plusieurs reprises, j'ai trouvé plusieurs citations, on a les lexies irréconciliables. On a même l'alexis contradiction. Alors la dernière question que je voulais me poser, est-ce qu'on doit le suivre sur cette voie? Est-ce qu'on doit en déduire que les lectures objectives, subjectives, autonymiques sont exclusives, antagoniques, contradictoires? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une conciliation? Est-ce que ce n'est pas de cette conciliation que naîtrait la véritable modernité de Robrier, hein? C'est ce que je vais essayer de défendre maintenant. Alors dans Le miroir qui revient, on peut trouver une tentative de conciliation qu'on sent très timide et vraiment peu sûre d'ordre psychologique et psychanalytique. Robrier, avec un arrière-fond de sarcasme très net, lit par exemple son parti pris de froideur narrative, il précise bien apparente, hein, on est en 84, hein, on n'est plus en 58, comme une réaction défensive envers la subjectivité trop ardente que ma mère apportait à l'expression de ses sentiments. Donc les deux se concilieraient, apparence, hein, psychologie intérieure contre psychologie extérieure, quelque chose comme ça. Un peu plus loin, il émet une autre hypothèse, mais qui paraît tout aussi douteuse. Hein, il parle d'une défiance à l'égard de ses propres penchants, voire d'une lutte ouverte contre lui-même. Hein, donc ces deux tendances consisteraient entre son moi qui éclatait, hein, donc deux parties de son moi qui luttent. Hein, donc finalement, ce qui ferait l'union de toutes ces contradictions, ça serait son moi éclaté, hein, image sans doute du moi de l'homme moderne. Claude Simon, encore lui, nous met peut-être sur une deuxième piste qui paraît plus riche, moi, personnellement. Voici, j'ai oublié de mettre la citation, je suis désolé. Donc, voici ce qu'il met. C'est dans Libération, 89, hein, donc un texte quand même assez tardif. Si le surréalisme est né de la guerre de 14, ce qui s'est passé avec la dernière guerre est lié à Auschwitz. Il me semble que l'on oublie trop souvent quand on parle du nouveau roman, qu'on l'oublie trop souvent quand on parle du nouveau roman. Ce n'est pas pour rien que Nathalie Sarraute a écrit « L'ère du soupçon », Barthes, le degré zéro de l'écriture, que des artistes, Tapiès ou Dubuffet, sont partis de graffiti, du mur, ou que Louise Nevelson a fait des sculptures à partir des décombres. Donc si on reprend l'extermination des Juifs, les bombardements d'Hiroshima, de Nagasaki, ont été menés grâce à une rationalisation des plus poussées, qui a conduit à une reddition totale de tout idéalisme, à une réification de l'homme, à une sorte de retour au temps désolé des premiers mille pattes, j'aurais envie de dire. Cependant, les horaires de la guerre n'ont pas seulement chassé l'homme, elles l'ont pas seulement réduit à l'état de matière, elles ont aussi transformé le réel en un véritable cauchemar. Elles ont révélé la monstruosité humaine, les fantasmes de violence et de domination qui sont larvés au fond de nos inconscients. Et puis, en mettant fin à la belle ligne ascendante du progrès, en sonnant la mort des valeurs de l'humanisme, ces horreurs ont enfin mis l'homme face au non-sens, face à un monde aporétique, incompréhensible. Si je reprends Retour à la matière, lecture objective, Folie des sujets, monstruosité de l'homme, lecture subjective, Non sans généralité, lecture autonomique. Troisième piste possible et intéressante, parce que là encore, Robrier l'a un peu évoqué, ce serait la piste dialectique. Est-ce qu'on ne peut pas voir la jalousie comme une sorte de somme de choc? Un choc de l'objectivité contre la subjectivité, un choc du réalisme contre le fantasmatique, un choc de la science contre le moi. C'est important du point de vue phénoménologique, hein, d'ailleurs, ce point-là. Un choc de la conscience contre l'inconscience, un choc de l'ordre contre le désordre, un choc du déterminisme contre la liberté. Et donc, j'ai envie de dire que Robrier, étant en plein milieu des chocs, hein, étant au moment de la thèse et de l'antithèse, eh bien, ne voit pas encore la synthèse. Il ne perçoit encore que contradiction, mais la simple existence de ces chocs, la simple existence de cette confrontation est peut-être signe d'un futur dépassement, hein, qui permettrait, je pourrais être conditionnel, à l'histoire de continuer. Et puis pour terminer, la quatrième piste, là je vous rejoins, hein, qui me paraît très riche, ça serait la phénoménologie. Et plutôt que de voir derrière ces trois lectures des contradictions, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter d'y voir trois étapes successives de la démarche phénoménologique? Husserl, on vient d'en parler, hein, propose pour mieux comprendre le réel, ce qu'il appelle le là, d'opérer une mise en suspens des préjugés, des préconceptions, hein, c'est l'époqué. Le but n'est plus du tout d'expliquer le réel ou de lui donner un sens, mais de décrire ce que l'on perçoit, hein, comme on le redit Merleau-Ponty, de revenir aux choses mêmes. Et Camus nous explique alors que la conscience ressemble en quelque sorte, c'est la citation H, et là c'est intéressant par rapport à votre réflexion sur le cinéma, à un appareil de projection qui se fixe d'un coup sur une image. La différence, c'est qu'il n'y a pas de scénario, mais une illustration successive et inconséquente. Ça veut dire que une telle approche va plonger le sujet dans un monde totalement déconcertant. le sujet se retrouve face à une profusion de phénomènes qui ne sont absolument plus hiérarchisés, qu'il est incapable de serrer, incapable de relier, incapable d'ordonner. Et si on arrête à ce stade, et ce que ne fait pas Husserl, attention, ce que fait Camus, mais ce que fait pas Husserl, le monde devient sans signification. Hein, et comme l'écrira Robrier lui-même, cela est et c'est tout. Est-ce qu'on ne trouve pas là un parfait résumé de ce que nous avons appelé plus haut la lecture objective? Mais l'intentionnalité de la conscience est ordinairement tellement tournée vers les objets, hein, ça sera la reproche que fera Husserl justement à la science, c'est qu'elle en oublie le moi. Elle en oublie que le moi peut aussi être l'intention du moi, peut être l'intention du sujet. En effet, malgré tout, tout être là, hein, est objet pour une conscience. Et ça veut aussi dire que le monde est inclus intentionnellement dans cette conscience. Alors, comment alors représenter, pas simple pour un écrivain, hein, comment représenter le fait que le moi, sans avoir conscience de lui-même, sans avoir conscience qu'il met en suspens les objets de son attention, est toujours là? Bien, pour ça, il faudrait essayer de trouver une sorte d'actant qui serait plus conscience que corps, qui serait omniprésent, qui générerait le monde qui l'entoure, mais invisible à lui-même et non vu par les autres. Bien, regardez la solution qu'a trouvée Robrier, hein, elle correspond parfaitement à cette définition phénoménologique. Hein. Il a trouvé, je trouve, la matérialisation idéale de ses conceptions philosophiques, un regard absent, hein, qui est malgré tout présent. Alors, si on peut faire un petit pas de plus, parce que ça veut dire qu'à cause de l'inclusion intentionnelle du monde dans la conscience, eh bien, conscience et monde existent dans une totale réciprocité. Je me demande si on ne pourrait pas trouver là de quoi justifier la lecture subjective de Morissette. Mais Husserl ne va pas s'arrêter à ce stade-là, parce qu'il montre bien que le perçu peut être simulacre, peut être hallucination, peut être illusion. Là encore, on trouverait peut-être notre lecture subjective. Et donc, pour arriver à vraiment appréhender le réel, eh bien, il faut dépasser le singulier, il faut dépasser l'accessoire, et trouver ce qui transcende les exemplaires, tous les exemplaires d'un objet donné. Il faut atteindre ce qu'il appelle l'eidos. Et comment atteindre cet eidos? Eh bien, il utilise une méthode qu'il appelle la variation eidétique. Alors, comment cette opération? Eh bien, ça consiste à faire varier l'objet qu'on étudie pour trouver l'invariant, qui va résister à toutes les variations, et ce sans quoi l'objet n'est pas lui-même. Or, là encore, qu'est-ce que je viens de vous proposer comme lecture avec la peinture tout à l'heure? Est-ce que finalement, en ayant comparé plein de peintures de différentes époques, j'ai cherché l'invariant d'un tableau à l'autre? Donc finalement, le fait d'en arriver tout à l'heure à la peinture essence de la peinture, ben, c'était une variation éthique. Et on pourrait faire la même chose. Est-ce que finalement, on n'a pas vu tout à l'heure que dans les différentes scènes d'écrasement, on arrive à un invariant, on arrive à un eidos? Alors ça serait quoi les invariants dans les scènes d'écrasement de la Scutigère? À chaque fois, on a le mur nu, surface blanche, claire, qui, entre guillemets, culturellement, ramène bien sûr aussi à Flaubert. Deuxièmement, on a des taches. Troisième invariant, on a d'opposition noir et blanc. Donc, autrement dit, l'eidos des scènes d'écrasement, c'est pas, comme on pourrait le croire, le personnage de A. C'est pas Franck, c'est pas la Scutigère, c'est même pas l'acte d'écrasé ou de gommer. L'invariant, eh bien, c'est du noir sur du blanc, sur une surface blanche. Donc, les mots, les phrases, l'écriture. Alors, si je récapitule l'ensemble de ma démarche, ça voudrait dire que, conformément donc aux premières observations de Barthes, les descriptions de la Scutigère semblent, à première lecture, tendre vers l'objectivité. Mais au fur et à mesure des chapitres, cette objectivité est de plus en plus mise à mal. Et cela à tel point que tout dans le référent semble devenir contradictoire. L'interprétation de Morissette prend alors le pas sur celle de Barthes. Le mille-pattes serait le fruit d'une subjectivité tourmentée, le produit d'une vision fantasmatique. Mais une telle approche conduit aussi à une impasse, parce que n'ayant pas la même structure que le réel, le référent ne peut être qu'infidèle au réel. Quelle solution reste-t-il? Celle qu'à la suite de Flaubert, celle qu'à la suite des peintres du XXe siècle, propose Ricardou. Représenter le seul élément du réel ayant la même structure que l'écriture, à savoir l'écriture elle-même. Mais aucune de ces approches, d'abord, ne semble satisfaire Butor-Robrier, ne semble non plus être en soi, il faut le dire, satisfaisante, et paraissent incompatibles et contradictoires. Et ces contradictions gênent Robrier. Mais je me demande si ce n'est pas de ces contradictions-là que naîtrait pas, paradoxalement, la plus fidèle des représentations de la réalité. Est-ce que ces contradictions ne matérialisent pas à merveille la fragmentation et l'étiraillement du moi? Est-ce qu'elles ne sont pas l'image du monde disloqué, incohérent de l'après-guerre? Est-ce qu'elles ne sont pas à l'image de la réification, de la monstruosité, du non-sens généralisé? Est-ce qu'on ne peut pas voir dans ces contradictions les chocs dialectiques dont émergera le monde de demain? Est-ce qu'on ne peut pas y voir les tâtonnements d'une pensée qui, partant du là, retrouvant le moi, cherche à mieux appréhender les eidos du monde? Et voilà donc qui amènerait à conclure que la modernité de la jalousie ne serait pas dans la représentation objective de la réalité, elle ne serait pas dans l'expression de la subjectivité, elle ne serait pas dans une littérature autonomique, elle se nicherait dans la tension entre ces trois lectures. Et c'est par cette tension, je crois, par ces contradictions, que Robe Grier, à la suite des classiques, des romantiques, des naturalistes, des surréalistes, contribuerait à son tour à faire passer la littérature du réalisme à la réalité. Merci.